Bonjour. Je le dis pour surtout nos visiteurs, nous avons choisi d'entamer un cycle d'études. La formule est un peu pompeuse, mais une étude suivie des lettres de Jean. Et donc nous en sommes à la première, et nous en sommes très précisément. Puisque c'est pour les prédicateurs une figure semi-imposée. C'est-à-dire qu'on doit forcément repartir là où le précédent s'est arrêté, mais en revanche, on s'arrête quand on veut, c'est-à-dire on lit 15 versets, 50 si on en a envie. Et donc moi, ce matin, ma lecture sera brève. Donc nous en étions restés au chapitre 3 et au verset 10, et j'attaque donc le verset 11 du chapitre 3, non sans avoir rappelé, peut-être pour encore une fois ceux qui nous rejoignent occasionnellement, donc Jean, qui est maintenant un vieillard, c'est même comme ça qu'il va s'intituler dans les deux autres lettres qu'il écrit. Il est à Éphèse et on est à la fin du premier siècle. C'est selon toute vraisemblance le dernier survivant, non seulement des apôtres, mais aussi enfin, il est parmi les derniers survivants des disciples de la première génération, c'est-à-dire de ceux qui ont connu Jésus. Et cette longévité n'étonne personne parce que à cette époque-là, on croit, quand les gens s'interrogent en disant, mais non, il n'est pas jeune. La réponse, c'est oui, mais c'est pas fini parce que lui, de toute façon, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir parce que quand Pierre a entendu de Jésus la manière dont il allait finir, il a eu l'idée assez saugrenue de dire, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Et Jésus a répondu, et qu'est-ce que ça peut te faire si je ne veux pas qu'il meure? Et du coup, on a interprété ça de la mauvaise manière, c'est-à-dire, on a dit, Jésus a dit à Jean, enfin à Pierre, que Jean ne mourrait jamais. Alors que ce n'était pas le sens des paroles de Jésus. Le sens des paroles de Jésus, c'était de faire en sorte que Pierre reste à sa place et ne pose pas de questions qu'il ne concernait pas. En tout cas, à cette époque-là, on croit encore que Jean est immortel parce que Jésus en a décidé ainsi, et donc le fait que ce soit un vieillard très avancé en âge, ça n'étonne personne. Vieillard qui pour autant n'est pas à la retraite parce qu'il se bat, enfin il combat intellectuellement. Des gens, et l'objet de sa lettre vise très clairement ces gens-là, des gens qui ont leur façon à eux de dire voilà comment il faut connaître Dieu. Alors, connaître Dieu, c'est pour eux essentiel, comme pour nous, sauf que eux ne voient pas les choses de la même manière, c'est-à-dire que bah, pour connaître quelque chose ou quelqu'un, on l'étudie, on y réfléchit, on le passe au microscope, et ceux-là, qu'on va plus tard appeler les gnostiques, justement à cause de ça, qui vient du verbe connaître, eux, ils prétendent savoir tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu, connaître Dieu pour l'avoir étudié. Et Jean s'inscrit en faux contre ça en disant, attendez, non, Dieu ne peut pas être un objet d'étude, sinon il ne serait pas Dieu. Entre celui qui étudie et celui qui est étudié, il y a un rapport dominant-dominé qui n'est évidemment pas envisageable avec Dieu. Donc Dieu, ce n'est pas comme ça qu'on le connaît. Et Jean dit, enfin, dans les études qui ont précédé, on a entendu Jean répéter, marteler même, ceux-là sont des menteurs. Ils disent qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu, on ne peut pas le connaître en l'étudiant, on ne peut pas le connaître en faisant un objet de spéculation. Et Jean dit, il n'y a qu'une seule manière de connaître Dieu, c'est d'être né de lui. Il n'y a qu'une seule manière d'accéder à qui est Dieu, c'est d'avoir, alors pardon d'utiliser un vocabulaire contemporain, mais d'avoir son ADN. Jean, il est cohérent avec ce qu'il écrit au début de son évangile. En disant, personne n'a jamais vu Dieu, Seul le Fils unique venu du Père nous l'a révélé, dévoilé. Un mot qu'on connaît bien en français. Apocalypsis en grec, c'est-à-dire enlever le voile. Apocalypse, ça veut dire ça. Et il dit à ceux qui ont cru en son nom, il a donné la capacité de devenir des enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés pour toutes les bonnes raisons qui font qu'un être humain vient au monde, c'est-à-dire le désir d'un homme pour une femme, par exemple, enfin, entre autres. Non, ils sont nés de Dieu. Et nés de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, comme toute filiation, on se connaît d'un enfant à ses parents par, alors, encore une fois, pardon pour l'image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais Jean la développe, cette image, l'ADN. Et donc, connaître Dieu, c'est avoir accès à son ADN parce qu'on l'a aussi. Et Jean, dans son développement, va dire, alors, qu'est-ce que c'est l'ADN de Dieu? Qu'est-ce que c'est l'ADN de Dieu? Comment est composé l'ADN de Dieu? Et il va donner trois, alors évidemment, connaître Dieu complètement, c'est exclu, mais il va donner trois composantes de l'ADN de Dieu. Et là, on est sûr de ne pas se tromper. Et quand il va en parler, c'est très curieux parce qu'en grec, normalement, on met un article. Hein. Bon, là, il va volontairement enlever l'article pour qu'on sache que c'est bien spécifique. Il va dire « Dieu est lumière », pas « Dieu est la lumière ». « Dieu est lumière ». « Dieu est amour », pas « Dieu est l'amour ». « Dieu est vie ». Alors, il va ajouter « vie éternelle », parce que sinon, vie, on ne comprend pas ce que c'est, mais la vie qui ne s'arrête jamais. Et il dit, ça, c'est l'ADN de Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Ça a quoi comme conséquence? Ça veut dire que ça ne se trouve qu'en Dieu, et que là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas ça. Et c'est pour ça qu'il commence sa lettre, cette première lettre, par une référence au commencement, de la même manière qu'il va commencer son évangile par une référence au commencement aussi, c'est qu'il veut commencer, c'est le cas de le dire, comme le livre de la Genèse commence, c'est-à-dire au commencement. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de dire, voilà, ce qu'on appelle globalement la création, c'est que Dieu crée, alors entendons-nous bien sur les termes, le ciel et la terre, alors ça ne veut pas dire... La terre, c'est pas juste la boule et le ciel, le machin bleu qu'il y a au-dessus. C'est, il crée deux mondes. Le monde où il est et le monde où il n'est pas. Donc, dans le monde où il est, il y a, j'allais dire, son ADN et il ne peut pas y avoir. Et dans les études qu'on précédait, on a lu Dieu est lumière, par exemple, et il n'y a pas d'obscurité en lui. Il ne peut pas y avoir d'obscurité. Parce que la lumière de Dieu, elle exclut par définition l'obscurité. Donc il ne peut pas y avoir d'obscurité en Dieu. Il ne peut pas y avoir de haine en Dieu, parce qu'il est amour. Il ne peut pas y avoir de mort dans le ciel, c'est-à-dire le domaine de Dieu, parce qu'il est la vie, il est vie, et vie en permanence. Sauf que là où il n'est plus, c'est-à-dire la terre. Alors, Dieu créa le ciel et la terre, et donc le récit de la Genèse dit, bon, on ne va pas vous parler du ciel, puisque de toute façon, j'allais dire, ça ne vous regarde pas pour l'instant, on va vous parler de la terre. Et donc, la terre, au départ, c'est l'absence de l'ADN de Dieu. Donc, l'absence de lumière. Et c'est pour ça qu'on dit, il y avait, alors, dans la traduction classique des ténèbres, il y avait de l'obscurité. Il n'y a pas ce qui est l'essence de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'amour. Il n'y a rien de tout ça. Et il ne peut rien y avoir de tout ça parce que ça, c'est qu'en Dieu. Alors, dans mes développements, je ne vais faire que développer ça ce matin, et vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne se revendiquent pas comme appartenant à Dieu, mais qui pour autant aiment leur chien. Oui. De la même manière que le soleil, selon la formule biblique, se lève sur les bons comme sur les méchants. N'empêche que Jean, il va écrire, si nous aimons, c'est parce que lui nous a aimés d'abord. C'est-à-dire que la capacité de l'homme, alors qu'il le sache ou pas, qu'il le reconnaisse ou pas, mais la capacité de l'homme à aimer, elle vient de Dieu, parce que la source de l'amour, c'est Dieu. La capacité de l'homme à vivre, même quand il est en rébellion contre Dieu, alors à vivre temporairement, ça vient de Dieu aussi. Pareil pour la lumière, etc. Alors, au départ, il y a ces deux mondes, et un monde qui est Dieu partout, tout le temps. Donc, du coup, il n'y a même pas de temps, puisqu'il est éternel. Et puis, dans le monde où il n'est pas, du coup, il n'y a pas la permanence non plus, puisque ça aussi, c'est dans son ADN. On ne va pas tout développer. Et du coup, ben, y a le temps, parce qu'il y a un commencement, et il y a aussi une fin. Alors, le récit de la création, pour faire vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va... vous voyez, par exemple, l'exemple est un peu bête, mais si demain matin, il y a une enquête judiciaire sur mon compte, je ne serai plus ici. Mais si la police scientifique débarque ici, ils vont trouver mon ADN partout, parce que j'ai tout tripoté. Donc ils vont dire, eh ben, il est là, il y a des traces de lui, et on ne peut pas se tromper, parce que l'ADN, c'est perso. Et Dieu, c'est pareil, si je puis dire. C'est-à-dire que dans quelque chose qui n'est pas lui, qui est l'absence de lui, la terre, il va envoyer son ADN pour que la terre réponde à la préoccupation, au projet qui était le sien. Et donc, il va commencer par dire, ben, j'envoie, de la même manière qu'on pourrait souffler. Et d'ailleurs, quand on dit que tout a été créé par la parole, vous savez, le prologue de Jean, c'est aussi tout ce qui existe a été fait par lui et rien de ce qui existe n'a été fait en dehors de lui. Ben, ça veut dire ça. Ça veut dire que pour que ça ressemble à quelque chose, il faut que lui envoie de son ADN. Donc, le premier ingrédient de son ADN, c'est la lumière. Donc, il va dire, allez, lumière. Et donc, ce n'est pas lui qui va investir le monde, c'est simplement une de ses composantes essentielles. Et donc, il va créer les conditions de la vie, et il va créer la vie, il va créer les conditions de l'amour, et il va créer l'amour. Et il va dire quoi de tout ça? Il va dire c'est parfait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une mutation génétique, si je puis dire, puisque... l'ADN, le génome, enfin, je ne vais pas vous faire un cours que je serais bien incapable de faire d'ailleurs sur le sujet, mais enfin, tout le monde a entendu parler de ce que c'est. Il dit c'est parfait, c'est-à-dire mon ADN est intact dans la lumière que j'ai envoyée sur la Terre, dans la vie que j'ai créée sur la Terre, dans l'amour que j'ai voulu pour les créatures, et j'ai fini par souffler mon esprit. Là, on ne peut pas faire mieux pour que l'homme, ultime créature, soit une âme vivante. Bon, c'est parfait. Et là, on va commencer par lire un texte qui dit l'enfant de celui dont j'ai dit c'est parfait, il était intrinsèquement mauvais. Il était du mal, Caïn. Alors quoi? Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Entre Dieu qui dit, en voyant Adam, c'est parfait, allez, concession, Ève aussi est parfaite, ça c'est une boutade. Mais Caïn, il est intrinsèquement mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, il y a une étanchéité entre le monde de... Il y a deux mondes, il y a le monde de Dieu et... Tout ce que Dieu crée sur la terre, enfin dans l'univers que nous connaissons, c'est beaucoup plus large que ça, ben, tout ça c'est parfait. Ok. Mais autour, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner, évidemment que Dieu n'a pas créé l'obscurité, mais je m'en suis expliqué, le vide de Dieu, c'est l'obscurité. Il suffit que Dieu ne soit pas là pour qu'il n'y ait plus la lumière, puisqu'il est lumière. Il suffit que Dieu ne soit pas là pour qu'il y ait l'absence d'amour, donc potentiellement la haine, potentiellement le mal. Il est vie, il suffit qu'il ne soit plus là pour qu'il y ait potentiellement la mort. Et donc, il y a les traces de Dieu, l'ADN de Dieu, dans un environnement qui lui est étranger. Et pour que tout ça ait un sens, pour qu'il y ait de l'amour entre Dieu et les hommes, ça, il y en a toujours et il y en aura toujours, mais surtout entre les hommes et Dieu, il faut que cet amour soit libre, sinon ça n'a pas de sens. Si l'amour n'est pas libre, imaginez qu'on vous ait, ça existe malheureusement encore, forcé à vous unir à un conjoint que vous n'avez pas choisi. Ben, ce n'est pas la même chose. Pour que l'amour que l'homme porte à Dieu ait un sens, il faut qu'il soit librement consenti. Et donc, il faut qu'il y ait le choix d'autre chose. Et le choix d'autre chose, c'est quoi? Alors, c'est le fameux péché originel, mais moi, je préfère dire péché fondamental, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au nom de la liberté, qui est une composante de l'amour qu'il lui porte, Dieu va dire à l'homme, tu as le choix. Ok, tu as le choix. Tu as le choix entre garder intact l'ADN que je t'ai donné, qui est fait de lumière, de vie et d'amour, ou bien choisir de te dégager de ça, choisir une mutation génétique. Mais sache que dans la mutation génétique, sache que dans la variation de l'ADN que je t'ai donné, il y aura potentiellement l'obscurité. Donc tu seras capable de, et c'est ce que Jean écrit dans le début de sa lettre, marcher dans l'obscurité, comme il le dit, marcher dans les ténèbres, si vous voulez. Tu seras capable de haïr et tu seras capable de mourir. Tu devras mourir si tu fais le mauvais choix. Et il le fait, ce mauvais choix. Et depuis que cette faute fondamentale a été commise, l'étanchéité entre le monde de Dieu et l'autre monde, le monde simplement du vide de Dieu, mais vide de Dieu, ça veut dire obscurité, ça veut dire mort, et ça veut dire haine potentiellement, eh bien, on est capable de l'un ou de l'autre. Et la preuve, enfin, l'image extrêmement parlante qu'on va donner de ça, c'est que Adam et Ève vont faire deux enfants, l'un dont la Bible passe son temps à nous dire que c'est un juste, même Jésus, quand il parle d'Abel, il dit Abel le juste. Et enfin, dans quasiment tous les textes, on parle d'Abel et on dit Abel le juste. C'est devenu son surnom, pratiquement. Et donc, il y en a un qui est juste et l'autre qui est fondamentalement mauvais. Et Jean, en réalité, dans le début de son épître, va dire, ben, c'est pas compliqué, ou bien on est d'un côté, ou bien on est de l'autre, mais vous ne pouvez pas dire « je connais Dieu » si vous marchez dans l'obscurité, si vous haïssez vos frères, parce que là, ça veut dire que vous avez choisi l'autre camp. Et dans l'autre camp, on ne peut pas connaître Dieu, puisque Dieu est, lui, totalement étanche à la connaissance par ce côté, pas refaire Star Wars, mais par ce côté obscur de la force, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire cet aspect du monde où il n'y a que obscurité, haine et mort. Ceux qui sont là-dedans peuvent toujours dire « Ah ben oui, je connais Dieu, j'ai étudié, hein, donc j'ai fait... Toutes les recherches qu'il fallait, donc Dieu, je peux vous en parler. » Non, on ne peut en parler que si on a son ADN. Alors, voilà très, très brièvement résumé ce que Jean développe. Alors, je vous recommande. En fait, il y a trois, si vous n'avez rien à faire cette semaine, à part réveillonner et digérer, il faut lire la première lettre de Jean, lire ce qu'on appelle le prologue de Jean, c'est-à-dire le début de l'Évangile, et relire le récit de la Genèse. C'est admirable de voir à quel point tout ça est cohérent. Et tout ça a du sens. Et donc, quand on a à peu près tout ça présent à l'esprit, Nous passons au verset 11 du chapitre 3. Tel est le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres, pas comme Caïn, étant du mauvais, enfin du mal, il a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, puisque nous aimons nos frères. Qui n'aime pas de mort dans la mort? Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous le savez, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est à ceci désormais que nous connaissons l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Et je m'arrête là, et vous voyez à quel point tout ça est imbriqué. Lumière, vie, amour, obscurité, mort, haine. Choisis ton camp, camarade, nous dit Jean. Et alors, il nous dit, c'est presque amusant parce que le premier verset que j'ai lu et le dernier verset, c'est bon, faites pas comme Caïn, n'égorgez personne. Et puis, puisque, alors vous savez tous que 1 Jean 3,16, c'est la suite de Jean 3,16. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'entendre que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Merci Seigneur, c'est ce qu'on a chanté, machin. Et puis, effectivement, il y a une conséquence qui est peut-être un peu moins digeste, c'est puisque lui a fait ça pour nous, nous, on doit faire ça pour les autres. Puisque lui a donné sa vie pour nous, nous, on doit donner notre vie pour nos frères. Ça, c'est 1 Jean 3,16. C'est un peu moins facile à mémoriser parce que c'est un peu moins facile à réaliser. Toujours est-il que, puisque c'est bientôt le début de l'année, nous avons, en début d'année, on prend toujours de bonnes résolutions. Donc moi, j'en ai 2 maintenant pour 2019. Premièrement, perdre quelques kilos, bon, ça comme tous les ans, j'y arrive jamais. Et deuxièmement, continuer de n'égorger personne, parce que j'ai un scoop. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi, je n'ai égorgé personne. Applaudissements, non. Bon. Et c'est quand même saisissant de voir que ce que Dieu attend de nous, c'est un, de n'égorger personne, bon, jusque-là, ça va. Enfin, si les circonstances... Et deux, donner notre vie pour nos frères, ça, c'est une autre paire de manches. Alors, quand on dit le commandement, voilà, tel est le message que vous avez entendu dès le commencement, ce qui renvoie toujours au commencement, hein. Je vais remettre mes lunettes, que nous nous aimions les uns les autres, pas comme Caïn, étant du mauvais, il a égorgé son frère, et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. La tentation, là, c'est de glisser là-dessus en disant, bon, ça, on y est à peu près tous arrivés. C'est vrai que l'image, bon, malheureusement, la période contemporaine nous a remis en mémoire quelque chose qui nous paraissait d'une barbarie absolue, c'est-à-dire voir... Enfin, c'est assez malsain d'aller regarder ça sur Internet. Personnellement, je ne l'ai pas fait, mais on a tous les images floutées du mec habillé tout en noir, debout à côté avec un couteau, et le gars à genoux habillé tout en orange qui n'a plus que quelques secondes à vivre. Et effectivement, c'est monstrueux. Là, le grec, enfin la langue grecque est plus précise que la langue hébraïque, puisque dans le récit de la Genèse, on dit simplement tuer son frère. Mais on a quand même un petit doute sur la manière dont ça s'est passé, puisque Dieu, je vais le lire tout de suite, Dieu dit à Caïn, la terre s'est ouverte pour recueillir le sang de ton frère. Donc c'est que le sang a coulé. Et donc c'est qu'effectivement, de toute façon, là en grec, on nous dit égorger, qui est un verbe tout à fait particulier. Et donc, on est tenté de se dire, d'ailleurs je vais lire le texte tout de suite, parce que ça présente un petit intérêt. Donc c'est dans Genèse au chapitre 4. Voilà, un récit que tout le monde connaît. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit « J'ai procréé un homme avec le Seigneur ». Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande des fruits de la terre. Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et de leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi t'irrites-tu et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas ? Si tu n'agis pas bien, le péché tapit à ta porte, te désire, mais toi, domine-le. » Caïn parla à son frère Abel, et lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ? » ?»« Je ne sais pas, » répondit-il, « je ne suis pas le gardien de mon frère. » « Qu'as-tu fait ? » reprit-il. « La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert sa bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Et donc, j'étais en train de vous dire que dans un premier réflexe, on se dit « Bon, bah ça, ça ne me concerne pas parce que je ne suis pas... le meilleur des hommes ou la meilleure des femmes, je ne suis pas irréprochable devant Dieu, mais enfin, de là à égorger quelqu'un, rien que d'y penser, ça me soulève le cœur, donc c'est sûrement pas ce que je vais faire. La mise en garde, je reviens un peu en amont de ce que je disais, la mise en garde de Jean dans sa lettre, c'est dire, bon, il y a deux mondes, c'est entendu. Et choisir l'autre monde plutôt que celui de Dieu, ça c'est un péché fondamental, et il dira dans la suite, c'est le péché qui mène à la mort. Et il dira, ça, c'est pas la peine de prier pour ça. C'est pas la peine de prier. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il prie pour lui. Et il ajoute, je ne parle pas du péché qui mène à la mort. Pas oublier que Dieu avait dit à Adam, si tu commets ça, c'est-à-dire si tu fais ce choix-là, tu mourras. Donc c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire, je choisis une mutation génétique par rapport à Dieu. Je ne veux plus de Dieu comme père. Je ne veux pas de Dieu comme père. Je ne veux pas de lien génétique entre lui et moi. Ça, alors il dit, ceux qui sont nés de Dieu... ça ne peut plus leur arriver, ça. Quand on est né de Dieu et qu'on sait ce que c'est qu'avoir l'ADN de Dieu, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, celui qui est de Dieu ne pêche plus, dira-t-il, et il ne peut plus pécher. Et en même temps, phrase à la mode, et en même temps, ça n'empêche pas la perméabilité à la faute. Et c'est pour ça que Jean semble se contredire. Alors, c'est très amusant parce que... Enfin, c'est très amusant. Quand on lit ça un peu rapidement, ben, on ne trouve dans cette lettre que des contradictions à propos du péché, comme d'ailleurs à propos du monde. Mais par exemple, il dit si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur. Donc d'une part, il dit ça. Et d'autre part, il dit celui qui le... Alors, c'est un peu plus loin. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche plus. Et il dit quiconque... Alors, je prends des phrases comme ça. « Quiconque est né de Dieu ne commet plus le péché parce que sa semence demeure en lui. » Sa semence, c'est ça dont je parlais, la filiation, l'ADN. Semence, en grec, c'est un mot très parlant, c'est sperma, dont on a tiré, évidemment, sperme. Donc, sa semence n'est pas en lui et il ne peut plus pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut plus... Quand on a la chance inouïe, immense, incroyable, d'avoir reçu l'ADN de Dieu, mais, j'allais dire plutôt crever que d'annoncer, mais évidemment qu'on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut plus commettre ce péché-là de dire à Dieu, je ne veux pas de toi comme père. Mais qui ici pourrait dire ça ? Quand on connaît Dieu comme père, qu'on a cette chance, qu'on a ce privilège, et qu'on sait tout ce que ça nous apporte, la lumière, l'amour, la vie, tout ça, ça vient de lui. Mais comment on pourrait être capable de dire, non, poubelle, moi je préfère l'obscurité, moi je préfère la haine, moi je préfère la mort, ben non, merci. Ça, on ne peut plus. Mais par contre, l'étanchéité rompue par Adam, merci grand-père, mais dont on est tous coupables, évidemment, cette faute fondamentale dont il a fallu que Dieu nous sauve, dont il a fallu que Dieu nous rachète pour nous montrer ce que c'était qu'être enfant de Dieu, cette étanchéité-là, elle n'est plus. C'est pour ça que Jean dit « Ce que nous sommes n'a pas encore été révélé. » Je ne sais plus où c'est, mais peu importe. Il dit « On n'est pas encore dans le monde de Dieu. » On n'est pas encore dans ce que la Genèse appelle le ciel. On est toujours sur la terre. On est toujours dans cette cohabitation improbable qui fait que l'ADN de Dieu est présent au milieu d'un environnement hostile, enfin d'un environnement contraire. Et donc, on est perméable à la faute. Alors, pas à la faute qui mène à la mort, mais à la faute dont Jean nous dit... Il faut le confesser, ça, parce que si on le confesse, lui, il est juste et il est fidèle, et donc il peut nous pardonner. Alors, je reviens à mon histoire de Caïn et Abel. Il ne dit pas, parce que nous, occidentaux, cartésiens, quand on dit, alors je vais être précis, pas comme Caïn, étant du mauvais, il égorgea son frère. Nous qui sommes des comportementalistes, on dit donc faut pas faire comme lui. Donc jusque-là, comme j'ai dit, ça va, on va y arriver. Passons à la suite. Il ne dit pas ne faites pas comme lui. Il dit simplement en grec pas comme lui. Pas comme lui. Et il donne ce qu'il a fait comme exemple, mais... Il dit « ne soyez pas comme lui ». C'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre. Alors, ça veut dire quoi « ne soyez pas comme Caïn » ? Parce que, autant, l'idée d'égorger, ça, on l'a dit et répété, on est à peu près à l'abri, autant être comme Caïn, c'est-à-dire cette perméabilité à la faute, là, il faut peut-être y penser, faut peut-être s'arrêter un peu plus longuement que prévu. Et c'est pour ça que j'ai lu peu de versets ce matin, parce que penchons-nous deux minutes sur le cas Caïn et demandons-nous s'il n'y a pas des leçons à en tirer. C'est quoi son problème à Caïn ? Il est triple, son problème. Il a un problème avec Dieu, il a un problème avec lui-même et il a un problème avec les autres. Ça tombe bien, moi j'ai aucun problème avec Dieu, j'ai aucun problème avec moi-même, j'ai aucun problème avec les autres, donc je peux vous en parler. Non, évidemment pas. Alors, c'est quoi son problème avec Dieu ? Le mystère est dans le fait que, comme je le disais tout à l'heure, deux enfants, alors je suis bien placé pour vous dire que quand on a deux enfants, c'est forcément pas les deux mêmes, mais enfin là, Adam et Ève, ils ont fait fort. Il y en a un sur lequel on colle l'étiquette juste à chaque fois qu'on en parle, et l'autre sur lequel on met mauvais. Au moins, les choses sont claires. Son problème, alors ne me demandez pas pourquoi, alors si, parce qu'il est mauvais, mais et ses œuvres étaient mauvaises. Mais à première vue, en regardant le film, rien ne permet, aucun indice ne permet de... se dire, évidemment que Dieu allait jeter un regard favorable sur l'offrande d'Abel et un regard défavorable sur l'offrande de Caïn. La première des choses qu'il faut savoir, enfin qu'il faut constater, pas besoin de savoir, qu'il faut constater, c'est que les deux font une offrande. Il n'y a pas un Abel gentil qui va au culte le dimanche et qui dit, je suis un bon chrétien, donc je fais une offrande à Dieu du produit de mon travail, et l'autre qui dit, tiens, à te faire foutre, c'est pas ça être mauvais. Quand Jean dit les antichrists, et Caïn est une figure d'antichrist, il dit, c'est de, nous, de chez nous qu'ils sont sortis. Caïn aussi rend un culte à Dieu. Déjà, ça, c'est la première. Et puis, encore une fois, rien ne permet, alors je sais bien qu'il y a des bouquins entiers qui ont été écrits là-dessus, mais rien ne permet de dire l'offrande d'Abel, puisque lui, il était berger, donc les premiers-nés, machin, etc., ça, c'était bien. Et puis l'autre, il a offert des fruits pourris, de toute façon, ce qu'il aurait mis à la déchetterie. Il n'y a rien qui suggère ça. Le problème, il n'est pas là. Le problème de Caïn avec Dieu, il est dans le fait, et ça nous est démontré par la suite du récit, son problème à Caïn, c'est que, en contrepartie, je dis bien en contrepartie de son offrande, il attend quelque chose. La preuve, c'est qu'une réaction aussi violente, quand le quelque chose qu'on attend ne vient pas, c'est bien qu'on attendait quelque chose. Si il avait été, j'allais dire, juste dans son offrande, il aurait dit à Dieu, ben voilà, je t'apporte ça. Après, je ne vais pas aller jusque-là, mais presque, ça te plaît ou ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Moi, j'ai fait ma part. Et moi, je n'attends rien de toi. Si Caïn réagit comme ça, c'est parce que il n'y a pas cette disposition d'esprit chez lui. Lui, on offre quelque chose à Dieu. Ben, Dieu, déjà, il doit l'accepter, il doit être content. Et puis, du coup, ça mérite une contrepartie. Parce que effectivement, le fait que Dieu ne porte pas, le texte dit, ne porte pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn, tant pis, on fera mieux la prochaine fois. On essaiera de mieux cibler le cadeau. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que Caïn, vous connaissez la parole de Job citée par Paul, qui a donné à Dieu en premier pour prétendre être payé en retour, ben Caïn, il y a ça dans sa tête. Il y a l'idée qu'il donne à Dieu et que donc il veut être payé en retour. Et que le fait que Dieu ne regarde même pas ce qu'il lui a offert, ben ça veut dire qu'il ne doit s'attendre à rien en retour. Abel, lui, il n'attend rien. Parce qu'il est juste. Et parce qu'il sait que Dieu lui a tout donné d'abord. Si on l'aime, si on aime, que ce soit lui ou nos frères, c'est parce que lui nous a aimés d'abord. Et lui nous a tout donné d'abord. Donc, ce qu'on peut lui donner, en fait, on lui rend, entre guillemets, c'est-à-dire on lui donne l'infime partie de ce qu'on lui doit, puisqu'on lui doit tout. Et ça, bah, c'est quelque chose que je peux entendre aussi, avant de parler d'égorger. C'est ma relation avec Dieu, est-ce qu'elle est vraiment, complètement désintéressé. À une époque où il y a des gens, alors je ne veux pas parler négativement parce qu'on n'est pas là pour ça, mais il y a quand même des prédicateurs qui disent il faut donner à Dieu parce que comme ça il vous le rendra au centuple, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, hein, pour dire les choses clairement. Si vous donnez à Dieu, il vous le rendra et il fera de vous quelqu'un de fortuné, quelqu'un de haut placé dans la société. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? C'est du Caïn. Ça, c'est du Caïn tout craché. Je t'ai donné, j'attends en retour. Aux États-Unis, l'histoire de la semence, on parle beaucoup de semence. Ça veut dire quoi, la semence? Ça veut dire vous donnez un peu de pognon à l'église et vous allez voir, vous allez gagner au loto. Alors du coup, effectivement, c'est une loterie. Et du coup, les pauvres, les malheureux qui se laissent piéger et qui s'aperçoivent que les pasteurs multiplient les voitures de luxe et les résidences secondaires, alors que, comme ça, financièrement, on en revient. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a... Alors, je sais bien que personne ne... Enfin, on n'en est pas là et on pourrait dire que ça ne nous concerne pas. Enfin, moi, je suis quand même attentif au fait d'avoir avec Dieu une relation totalement désintéressée. Comment je suis malade alors que je vais au culte tous les dimanches? Tu ne me dois pas la santé, non? Un minimum, quand même. Ben non. Il ne nous doit rien. Pas le pognon, pas la santé, pas un beau mari, une belle femme, ou il ne nous doit rien de tout ça. Qui peut prétendre être payé en retour pour avoir donné à Dieu en premier? Et Caïn, il a ce problème-là avec Dieu, c'est qu'il n'est pas dans une relation désintéressée. Son deuxième problème à Caïn, je vais essayer de... Voilà. Moi, de toute façon, la limite, c'est midi. Donc à midi, on me coupe le micro. Bien. Son deuxième problème à Caïn, c'est qu'il a un problème avec lui-même. Alors là, je ne veux pas, jouer les psychologues de comptoir, mais Dieu lui offre le dialogue. C'est pas comme si Dieu détournait son regard de son offrande et puis débrouille-toi avec le silence, non? Dieu s'adresse à Caïn et il lui dit, encore une fois, je prends volontairement un langage de psy, mais t'as un problème, mais on va en parler si tu veux. Si tu veux, on en parle. Pourquoi tu t'irrites? Et Dieu va même jusqu'à poser des questions. Pourquoi tu t'irrites comme ça? Pourquoi? Fais attention, parce que là, il y a un piège du mal. Et cette offre de dialogue, Caïn ne va pas être capable d'y répondre parce que lui, il a un problème avec lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette capacité de regarder son problème en face. Il n'a pas la capacité de se regarder tel que Dieu est en train de le voir et est en train de le voir déraper. C'est-à-dire se remplir de jalousie, se remplir d'amertume et au bout du compte se remplir de haine et se remplir de colère. Et le dialogue avec Dieu, ça aurait permis ça. Il y en a un qui va réussir ce que Caïn n'a pas réussi, c'est Job. Qu'est-ce qui se passe, Job? Ah, tu veux savoir ce qui se passe? Eh bien, je vais te le dire. Je vais cracher le morceau. Et je vais te demander quel est le sens de tout ça. Quel est le sens de tout ce qui m'arrive? Quel est le sens de... Alors que je suis ton serviteur zélé, alors que je t'aime comme il faut t'aimer, alors que je fais tout comme il faut, il m'en tombe sur la cafetière, tous les jours un peu plus, ça va pas. Ce dialogue-là avec Dieu, mais Dieu y est tout à fait prêt. Dieu n'a jamais dit à Job, mais c'est comme ça que tu me parles, mais tu te prends pour qui? Alors, il va lui dire à Job, il va lui démontrer qu'il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Qu'il ne peut pas comprendre parce que seul celui qui maîtrise le temps maîtrise le sens, mais bon, peu importe. Mais Job, il va avoir de la part de Dieu, parce qu'il va y consentir, cette thérapie psychologique qui fait que, à la sortie, il va dire... Bon, je ne comprends pas tout, mais Dieu m'a dit pourquoi je ne pouvais pas comprendre. Et bon, maintenant je te connais, et on revient à la connaissance. Maintenant je te connais, maintenant je sais que j'ai ton ADN, quoi qu'il puisse m'arriver, et quoi qu'il puisse m'arriver de mauvais. Et c'est à ça que Caïn aurait dû aboutir, s'il n'avait pas en lui un obstacle insurmontable, un mur d'incompréhension. Et ça, c'est le problème que lui, Caïn, ne veut pas voir. Il a un problème avec lui-même. Et puis il a un problème avec son frère, mais un problème avec les autres. Il a un problème avec les autres. Parce que d'abord, c'est une réflexion de bon sens, mais il faut quand même se la faire. Si Caïn n'a pas, de la part de Dieu, l'accueil qu'il attendait, Abel n'y est pour rien. Alors c'est plus facile de tuer Abel que de tuer Dieu, bien sûr. Il y en a un qui est plus facile à égorger que l'autre. Bon, c'est entendu. Mais ça s'appelle transférer sa colère sur quelqu'un qui, par définition, est innocent du problème qu'on rencontre. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il faut que moi, je sois mis en garde contre le fait d'en vouloir à mes frères ou à mes sœurs, ou aux autres d'une manière générale, quand Dieu semble leur être plus favorable qu'à moi, mais la jalousie, c'est pas quelque chose dont on est forcément complètement à l'abri tout le temps. C'est dégueulasse quand même. T'as vu ? Il ou elle a tout, tout lui réussit, la santé, le machin. Et puis moi, enfin, il m'en tombe une nouvelle tous les jours. Alors, bon, je vais pas l'égorger, mais un regard envieux, voilà. Et puis son problème avec les autres, évidemment, il ne s'arrête pas là. C'est que il a cette phrase terrible. Mais moi, mon frère, c'est pas mes oignons. Je suis pas le gardien de mon frère. Alors, faut quand même être gonflé quand on vient de l'égorger, de dire, mais moi, ce que fait mon frère, ça me regarde pas, ça m'intéresse pas. Chacun sa vie. Et bon, alors, effectivement, nous, moi, je me parle à moi, sans encore une fois parler de d'égorger au propre comme au figuré d'ailleurs, mais est-ce que de temps en temps, c'est pas plus facile, ça ne m'est pas plus facile, puis je vous assure que chez moi, le naturel revient au galop. Je suis pas forcément sociable à l'état de nature, et donc l'idée de m'isoler, de me replier sur moi en disant, bon bah, chacun se débrouille, et les vaches seront bien gardées, ce qui arrive à mon frère ou à ma sœur ou aux autres, ce qui vous arrive, après tout, c'est votre problème, hein, chacun balaye devant sa porte. Ça, c'est une tentation. Ça, c'est une tentation contre laquelle j'ai besoin d'être mis en garde, d'autant plus qu'elle se double chez Caïn. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. Donc Caïn, quand on lui dit, au fait, mais bien sûr qu'il est le gardien de son frère, en plus, c'est son petit frère. Caïn est l'aîné. Bien sûr que si quand on n'est que deux, on n'est pas foutu de veiller l'un sur l'autre, c'est quand même pathétique. Mais donc, admettons même que sa façon de voir à Caïn, ce soit de dire, bon, ok, moi, mon frère, c'est mon frère, lui, c'est lui, moi, c'est moi, chacun son truc. Ben, à ce moment-là, comment tu peux dire ce qui le concerne, ça ne m'intéresse pas, alors que tu t'es bien inquiété de savoir quel était l'accueil que Dieu avait fait à son offrande à lui, ce qui pour le coup ne te regarde pas, puisque c'est une affaire entre lui et Dieu. Comment tu as pu, toi Caïn, te mêler de la relation entre Abel et Dieu pour savoir que l'offrande d'Abel avait été mieux accueillie que la tienne? Ça veut dire que tu ne veilles pas sur ton frère, mais que tu le surveilles. Veiller sur et surveiller, c'est pas la même chose en l'occurrence. Et ça aussi, j'ai besoin de l'entendre. Il y a une bonne façon et une mauvaise façon de s'occuper du voisin. La bonne façon, c'est de veiller sur lui, c'est ce que Caïn aurait dû faire. La mauvaise façon, c'est de le surveiller. Pour se mêler de sa relation avec Dieu. Oh, toi, il y a un truc qui va pas dans ta vie. Je le sens. Voilà, tu parles. J'ai aussi besoin d'entendre que si je dois m'intéresser à l'autre, l'autre qui n'est pas un étranger, mais qui est mon frère ou ma sœur, je dois le faire de la bonne manière et pas de la mauvaise, c'est-à-dire je ne dois pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je dois veiller sur lui pour lui apporter ce que j'ai reçu de la lumière de Dieu, de l'amour de Dieu et de la vie de Dieu, que peut-être lui n'a pas reçu de la même manière ou dans les mêmes proportions, alors que lui va m'apporter ce que lui a de la part de Dieu comme vie, comme amour et comme lumière. Donc voilà ce que Dieu nous dit par la plume de Jean, et il nous dira, quand vous êtes capable de ça, et attention parce que, et ça Jésus l'avait dit avant, Jésus avait dit, celui qui est H.A.I.T., son frère, est un meurtrier. Et Jésus avait dit, vous avez appris qu'il a été dit, et il récite la loi, mais il dit, alors, je suis désolé, mais moi je traduis les mots en français, hein, même si ça vous choque. Bon, celui qui traite son frère de con, parce qu'il y a ce mot grec-là, il n'y a pas d'autre moyen de le traduire exactement, celui qui traite son frère de con, il mérite de brûler en enfer. Ça veut dire que le l'état d'esprit qui fait qu'on traite quelqu'un comme ça et l'état d'esprit qui fait qu'on l'égorge ne sont pas si éloignés. C'est une question d'intensité. C'est une question de quantité. Mais qualitativement, on est dans le même état d'esprit. Et donc, évidemment, quand on entend ça de la part de Jésus, on lui répond, mais alors qui peut être sauvé dans ces cas-là? Qui peut échapper à la colère de Dieu? Et c'est pour ça que Jean, là, répond, si nous confessons nos péchés, lui, il est juste et lui, il est fidèle pour nous pardonner. Alors, il y a mille manières, sans égorger personne, d'être des petits Caïn. Moi, je demande au Seigneur de me guider dans l'autre chemin, celui de l'amour, de l'amour, de la vie et de la lumière. Voilà, je m'arrête. Il est midi.